Chapitre 5. De nombreuses rumeurs coururent les deux mois suivants. Les gens prétendaient voir Derby de plus en plus souvent dans son état surexcité, et Azanath était rarement présente lorsqu'on lui rendait visite. J'eus une seule visite d'Edward qui passa me voir rapidement avec la voiture d'Azanath, récupérée de Dieu sait où il l'avait laissée dans le Maine, pour me réclamer des livres qu'il m'avait prêtés. Il était dans son nouvel état et ne s'arrêta un moment que pour des remarques à la politesse évasive. Il était clair qu'il n'avait rien à me dire quand il était dans ses dispositions, et je remarquai qu'il ne s'était même pas donné la peine de faire le vieux signal, trois coups puis deux coups, lorsqu'il avait sonné à la porte. Comme ce soir-là, dans la voiture, je ressentis une horreur vague mais infiniment profonde que je ne pouvais pas expliquer, si bien que son prompt départ fut un prodigieux soulagement. À la mi-septembre, Derby était parti pour une semaine et certains décadents du collège commencèrent à évoquer la question, faisant référence d'un air entendu à une rencontre avec un célèbre chef de culte récemment expulsé d'Angleterre et qui avait établi son quartier général à New York. Pour ma part, je ne pouvais sortir de mon esprit cet étrange équipé dans le Maine. La transformation dont j'avais été témoin m'avait profondément affecté, et je me surprenais encore et encore à essayer de comprendre la chose ainsi que l'extrême horreur qu'elle m'avait inspirée. Mais les rumeurs les plus déconcertantes étaient celles qui parlaient de sanglots dans la vieille maison Crowninshield. La voix semblait être celle d'une femme, et certains des plus jeunes pensaient qu'elle ressemblait à celle d'Azenath. On ne l'entendait qu'à de rares moments, et elle s'arrêtait parfois soudainement comme étouffée de force. On commençait à parler d'une enquête, mais tout se dissipa un jour lorsqu'Azenath apparut dans les rues et discuta d'un air enjoué avec de nombreuses connaissances, s'excusant de sa récente absence et parlant incidemment de la dépression nerveuse et de l'hystérie d'une visiteuse de Boston. L'invité n'avait jamais été vu, mais la présence d'Azenath ne laissait rien à ajouter. Et puis quelqu'un compliqua les choses en murmurant que les sanglots semblaient une ou deux fois provenir d'une voix d'homme. Un soir de la mi-octobre, j'entendis les familiers trois coups deux coups à la sonnette de la porte d'entrée. Ouvrant moi-même, je trouvai Edward en haut de l'escalier et je vis tout de suite que sa personnalité était l'ancienne, que je n'avais plus rencontrée depuis le jour de ses délires lors de ce terrible voyage de retour de Chesuncook. Son visage était secoué de spasmes avec un mélange de curieuses émotions où la peur et le triomphe semblaient rivaliser, et il regarda furtivement derrière son épaule tandis que je fermais la porte derrière lui. Me suivant maladroitement dans le bureau, il me demanda du whisky pour affermir ses nerfs. Je brûlais de l'interroger, mais j'attendis qu'il se sente prêt à aborder le sujet dont il souhaitait m'entretenir. Il finit par se lancer d'une voix étouffée.
Azenath est parti, Dan. Nous avons eu une longue discussion la nuit dernière alors que les serviteurs étaient sortis, et je lui ai fait promettre d'arrêter de s'en prendre à moi. Bien sûr, j'avais certaines protections occultes dont je ne t'ai jamais parlé. Elle dut se soumettre, mais entra dans une rage terrifiante. Elle a juste fait ses bagages et est partie pour New York, fonçant pour attraper le train de 8h20 pour Boston. Je suppose que les gens vont en parler, mais je n'y peux rien. Tu n'as pas besoin de dire qu'il y a eu des problèmes, dis seulement qu'elle est partie pour un long voyage de recherche. Elle va probablement rester avec l'un de ces horribles groupes de fanatiques. J'espère qu'elle ira Dieu sait où et que j'obtiendrai le divorce. Je lui ai fait promettre de rester loin de moi et de me laisser seule. C'était horrible, Dan. Elle me volait mon corps. Elle m'envahissait, faisant de moi un prisonnier. Je gardais profil bas et donnais l'impression de la laisser faire, mais je devais rester sur le qui-vive. Je pouvais faire des plans si j'étais prudent, car elle ne pouvait pas au sens propre lire dans mes pensées, ou du moins en détail. Tout ce qu'elle pouvait lire de mes préparatifs, c'était une sorte d'état d'esprit général de rébellion, et elle pensait toujours que j'étais sans défense. Jamais cru que je pourrais la battre. Mais j'avais un sort ou deux qui ont fonctionné. Derby lança un regard derrière son épaule et reprit du whisky. J'ai payé ces maudits serviteurs ce matin quand ils sont revenus. Ça les a rendus furieux et ils ont posé des questions, mais ils sont partis. Ils sont de sa race, les gens d'Innsmouth, et ils étaient cul et chemise avec elle. J'espère qu'ils me laisseront tranquille. Je n'ai pas aimé la façon dont ils ont ri quand ils sont partis. Je vais essayer de retrouver autant d'anciens serviteurs de papa que je le pourrai. Je vais retourner à la maison maintenant. Je suppose que tu crois que je suis cinglé, Dan, mais l'histoire d'Arkham laisse entrevoir des faits qui confirment tout ce que je t'ai dit et ce que je vais te dire maintenant. Tu as vu l'une de ces transformations, toi aussi, dans ta voiture après ce que je t'ai dit à propos d'Azanath, ce jour où nous revenions du Maine. C'était ce qui arrivait quand elle me prenait, me chassait de mon corps. La dernière chose dont je me souviens, c'était que j'étais tout occupé à essayer de te dire quelle diablesse elle est. Alors elle m'a pris, et en un instant j'étais de retour à la maison, dans la bibliothèque où ces damnés serviteurs m'avaient enfermé, et dans ce maudit corps diabolique qui n'est même pas humain. Tu sais que c'était avec elle que tu es rentré à la maison, ce prédateur à l'intérieur de mon corps, tu as bien dû sentir la différence. Je frissonnais alors que Derby faisait une pause. Bien sûr, j'avais senti la différence, et pourtant, pouvais-je accepter une explication aussi folle? Mais mon visiteur devenait de plus en plus perturbé. Il fallait que je me libère, je le devais, Dan. Elle m'aurait eu pour de bon à Hallowmass. Ils ont tenu un sabbat là-bas près de Chesuncook, et le sacrifice aurait scellé quelque chose. Elle m'aurait eu pour de bon, elle aurait été moi, j'aurais été elle, pour toujours, trop tard. Mon corps aurait été à elle, pour de bon. Elle serait devenue un homme et pleinement humaine, exactement ce qu'elle voulait être. Je suppose qu'elle se serait débarrassée de moi. Elle aurait tué son ancien corps avec moi dedans, qu'elle soit maudite, tout comme elle l'avait déjà fait auparavant, comme elle l'avait fait ou comme cela l'avait fait. Le visage d'Edward était maintenant atrocement déformé, et il le rapprochait désagréablement du mien, tandis que sa voix se terminait en un murmure. Il faut que tu saches ce que je voulais te dire dans la voiture, qu'elle n'est pas du tout Azanath, mais vraiment le vieil Éphraïm lui-même. Je le soupçonnais il y a un an et demi, et maintenant je le sais. Son écriture le montre lorsqu'elle n'y prend pas garde. Parfois, elle griffonne une note d'une écriture qui est la même que celle des manuscrits de son père, trait pour trait. Et parfois, elle prononce des paroles que personne ne pourrait prononcer si ce n'est un vieil homme comme Éphraïm. Il a changé de corps avec elle quand il a senti venir la mort. Elle était la seule qu'il avait pu trouver avec un cerveau approprié et une volonté suffisamment faible. Il lui a pris son corps définitivement, comme elle m'a presque pris le mien. Puis il a empoisonné le vieux corps dans lequel il l'avait envoyé. N'as-tu pas vu des dizaines de fois l'âme du vieil Éphraïm briller dans les yeux de cette diablesse, et dans les miens quand elle prenait le contrôle de mon corps? Ses murmures devenaient un halètement, et il dut s'arrêter pour reprendre son souffle. Je ne dis rien, et lorsqu'il reprit, sa voix était presque normale. Voilà un cas pour l'asile, pensais-je, mais je ne serai pas celui qui l'y enverrait. Peut-être le temps et le fait d'être libéré d'Azanath feront-ils leur œuvre. Je pouvais voir qu'ils ne voudraient plus jamais donner dans l'occultisme morbide. Je t'en dirai plus une autre fois. Je dois maintenant prendre un long repos. Je te raconterai certaines des horreurs interdites à travers lesquelles elle m'a conduit, à propos des horreurs anciennes qui, même maintenant, demeurent dans des endroits reculés, maintenues vivantes par quelques prêtres monstrueux. Certaines personnes savent des choses sur l'univers que personne ne devrait savoir et peuvent faire des choses que personne ne devrait être capable de faire. J'y étais jusqu'au cou, mais c'est fini. Aujourd'hui, je brûlerai ce maudit Necronomicon et tout le reste avec si j'étais bibliothécaire à Miskatonic. Mais elle ne peut plus me prendre maintenant. Je dois sortir de cette maudite maison dès que je le pourrai et me réinstaller à la maison. Tu m'aideras, je le sais, si j'en ai besoin. Ces serviteurs démoniaques, tu sais, et si les gens devenaient trop curieux au sujet d'Azanath. Tu vois, je ne peux pas leur donner son adresse. Alors il y a certains groupes de chercheurs, certains cultes, tu sais, qui pourraient ne pas comprendre notre séparation. Certains d'entre eux ont des idées et des méthodes diablement curieuses. Je sais que tu seras à mes côtés si quoi que ce soit arrive, même si j'ai à te dire beaucoup de choses qui te choqueront. Je fis rester Edward et il dormit cette nuit-là dans une des chambres d'amis, et au matin il semblait plus calme. Nous discutâmes de certaines dispositions possibles en vue de son déménagement vers le manoir Derby, et je souhaitais qu'il ne perde pas de temps avant de procéder à ce changement. Il ne vint pas le soir suivant, mais je le vis fréquemment dans les semaines qui suivirent. Nous parlions le moins possible de choses étranges et déplaisantes. Au contraire, nous discutions de la rénovation de l'ancienne maison Derby et des voyages qu'Edward avait promis de faire avec mon fils et moi l'été suivant. Nous ne parlions pratiquement pas d'Azenat, car je vis que le sujet le perturbait particulièrement. Les ragots, bien sûr, allaient bon train, mais ce n'était pas nouveau en ce qui concernait l'étrange couple de la maison Crowning Shield. Une chose qui me déplut, cependant, ce fut les allusions un peu trop exubérantes que fit au club miskatonique le banquier d'Edward, à propos de chèques qu'il envoyait régulièrement à des dénommés Mouses et Abigail Sargent et Eunice Babson à Innsmouth. Il semblait que ses serviteurs au visage maléfique lui extorquaient une sorte de tribut, bien qu'il ne m'ait pas mentionné ce fait. J'attendais que vienne l'été et les vacances de mon fils qui était à Harvard, afin que nous puissions emmener Edward en Europe. Je vis bientôt qu'il ne se remettait pas aussi rapidement que je l'avais espéré, car il y avait quelque chose d'un peu hystérique dans ses griseries occasionnelles, tandis que ses moments d'effroi et de dépression étaient trop fréquents. La vieille maison Derby fut prête en décembre, toutefois Edward repoussait constamment son déménagement. Bien qu'il détestât et semblât avoir peur de la propriété Crowning Shield, il était en même temps curieusement enchaîné. Il ne semblait pas prêt à commencer à tout dépouiller et inventait toutes sortes d'excuses pour repousser le projet. Lorsque je le lui fis remarquer, il sembla inexplicablement effrayé. Le vieux maître d'hôtel de son père, qui était revenu avec d'autres serviteurs réembauchés, me dit un jour que les allées et venues d'Edward dans la maison, et particulièrement dans la cave, lui semblaient curieuses et surprenantes. Je me demandais si Azenat n'avait pas envoyé des lettres qui le perturbaient, mais le maître d'hôtel m'assura qu'il n'y avait aucun courrier qui aurait pu venir d'elle.